au printemps dernier, vous avez quitté l'Institut CSA, dont vous étiez le président depuis 4 ans, pour créer votre propre structure d'études et de conseils, ELAB. L'activité de sondeur s'inscrit-elle dans un secteur d'activité épargné par la crise ?
Non, les études ne sont pas épargnées par la crise économique, comme tous les secteurs, parce que leurs clients, évidemment, sont beaucoup d'entreprises qui, elles-mêmes, doivent affronter ces difficultés économiques. Mais aussi parce que les instituts d'études sont confrontés à la révolution digitale et au fait que Google, Facebook, qui gèrent des milliards de données, sont des nouveaux concurrents. Et donc, cela impacte, comme on dit, le business model des études. Aujourd'hui, la valeur n'est plus forcément dans la collecte des données il y en a partout, mais la valeur de ce que vendent les instituts ou les cabinets d'études doit être plutôt dans l'analyse, dans l'interprétation, dans la réflexion méthodologique également, parce qu'il y a une méthodologie spécifique aux études, mais plus dans la collecte. Donc oui, c'est un métier qui est en plein bouleversement.
Généralement, on ne parle des sondages qu'en période électorale. Les politiques et les médias sont-ils les meilleurs clients des instituts de sondage, comme on serait porté à le croire ?
Alors ça, c'est une erreur absolue. Dans les instituts en général, et c'était le cas par exemple chez CSA, la politique représentait 10% du chiffre d'affaires et 5% de la marge brute. Non, les instituts d'études travaillent principalement d'abord avec des grandes entreprises ou des grands acteurs institutionnels, mais surtout des grandes entreprises qui s'intéressent soit à la satisfaction de leurs clients, soit à la notoriété, à l'image de leur marque, qui veulent tester des lancements d'offres ou de produits, qui veulent interroger leurs salariés sur le climat interne en entreprise, ou également, évidemment, des entreprises qui veulent prendre la parole dans le débat public. Mais le gros des études, par exemple, ce sont ce que l'on appelle des études marketing avant d'être des études d'opinion. Alors, bien sûr, le grand public ne voit pas ça, puisque ce sont des études confidentielles qui ne sont pas rendues publiques, ce sont des études commandées, réalisées pour des grands acteurs économiques, des grandes entreprises, mais c'est 80 à 90% du business des instituts.
Pour parler de ce que l'on sait, de ce que l'on voit, on connaît donc l'affaire des sondages de l'Elysée et les sommes importantes investies par l'ancien chef de l'État et ses équipes. Peut-on parler dans certains cas, pour ce qui est des personnalités politiques, d'addiction aux sondages ?
C'est une période que je n'ai pas vécue. Moi, je n'étais pas président d'institut. J'ai pris mes fonctions début 2011. Je ne crois pas qu'il y ait d'addiction. Je pense que les politiques sont assez matures avec les sondages, qu'ils les utilisent, qu'ils les lisent, évidemment. Il ne faut pas croire tous ceux qui vous disent de plateau en plateau média, mais les sondages, ça ne nous intéresse pas. Ça, ce n'est pas vrai. Mais en même temps, ils les prennent comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire une photographie. Moi, je crois par ailleurs qu'il ne faut pas confondre. Il y a des sondages très politiques. Vous savez, je dirais, c'est un peu la course aussi des personnalités, le plus 3, moins 2, et c'est une indication sur la vie politique. Mais il y a des études sur la société, des études qui expliquent les grandes mutations. Je vais prendre un exemple. Nous avions réalisé, et j'avais piloté chez CSA, une étude qui avait mis en avant cette notion de France amère. Cette France amère qui se sentait à la fois très proche des valeurs du travail et en même temps très en colère contre l'assistanat, contre la fraude, contre les injustices. Et cette France amère, elle était déjà le socle du vote Front National avant les élections européennes et départementales. Et bien voilà, des études comme ça, cela explique, au-delà encore une fois des sondages de popularité, on confond parfois, cela explique, ça peut permettre aux politiques d'avoir une lecture des phénomènes de société, une lecture quantifiée, une lecture objective qu'ils comparent évidemment avec les données qu'ils recueillent eux-mêmes sur le terrain.
On se souvient qu'en 2002, personne n'avait prévu Jean-Marie Le Pen au second tour. Pourquoi les sondeurs, à cette époque-là, étaient-ils passés à côté de cet événement ? Et comment est-il possible aujourd'hui d'améliorer la qualité des informations délivrées par les enquêtes des sondeurs ?
Alors, encore une fois, moi je n'étais pas dans le métier à cette époque, mais j'ai beaucoup regardé ce qui s'était passé. D'abord, il faut dire que ces erreurs ont été corrigées depuis. Par exemple, aux élections européennes, tous les instituts ont donné avec précision le Front National en tête, et c'est ce qui s'est produit. Et donc aujourd'hui, on a appris à mesurer le vote Front National, qui longtemps a été un vote non assumé, non déclaré, et c'est ça qui posait des difficultés, je crois, à l'époque aux sondeurs. Ensuite, je vous dirais, les sondeurs se trompent. Oui, tout le monde fait des erreurs. Les journalistes en font, les grands chirurgiens peuvent faire des erreurs, les dirigeants peuvent faire des erreurs. Le problème, c'est de dépasser l'erreur et d'en tirer des enseignements. Et là-dessus, je vous rejoins. Et effectivement, il y a eu, notamment avec l'arrivée du online, c'est-à-dire des études qui sont faites en relation directe entre l'interviewé et les éléments de réponse qu'il fournit. Il n'y a plus l'intermédiation d'un enquêteur. Et bien, on s'est rendu compte qu'il y avait là plus de déclarations du vote Front National. Et ça a permis, par exemple, dans les différents scrutins, de mieux prendre en compte ce vote qui, jusqu'à présent, pour certains électeurs, par exemple, venus de la gauche, n'était pas assumé.
Est-ce qu'un sondage peut influencer les électeurs ?
Écoutez, le sondage, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, ce qu'on appelle l'effet bandwagon et l'effet underdog, notamment aux États-Unis, certains prétendant que les sondages en désignant un vainqueur possible ne faisaient que alimenter, qu'augmenter cette dynamique, d'autres à l'inverse, parfois mettant en avant le fait que l'électeur, qui est un stratège, on le sait, qui écoute les sondages, parfois volait au secours de celui qui lui semblait distancé. Moi, je ne suis pas adepte de l'une ou l'autre théorie, mais évidemment, aujourd'hui, les sondages sont un des éléments de la vie démocratique. Moi, je comprends très bien qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord, qui le regrettent, mais c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Les sondages sont surtout aujourd'hui un élément très important de la dynamique médiatique. Ça, je crois que c'est le point essentiel. C'est vrai que les médias, et vous le savez bien vous-même, les médias en font un élément du débat politique. Et souvent, on passe 2 à 3 minutes d'une interview d'un homme politique à l'interroger sur les sondages. Donc, il faut intégrer ça, et en même temps, il faut prendre des sondages pour ce qu'ils sont. Un sondage n'est pas une prédiction. Un sondage ne dit pas l'avenir. Il dit à aujourd'hui ce qui est photographié dans l'opinion.
Aux élections régionales de décembre, les sondeurs annoncent la déroute de la gauche, la victoire de la droite et une nouvelle fois la montée du FN. Est-ce que c'est vraiment ce qui pourrait se passer en décembre prochain ?
Écoutez, la campagne régionale n'a pas commencé. On rentre de vacances, les Français vont s'intéresser au régional très tard. Mais objectivement, qu'est-ce qui a changé ? Dans le paysage politique, je parle là du rapport à l'exécutif, à François Hollande et au gouvernement, depuis les dernières élections départementales. Rien. La situation économique est toujours aussi difficile. L'exécutif, même s'il a redressé un peu son image personnelle, n'est pas crédité de résultats économiques, et c'est là sa principale difficulté. Et donc on ne voit pas ce qui éviterait à la gauche une nouvelle défaite. Maintenant, quelle sera l'ampleur de cette défaite? Ça, c'est plus difficile à dire. Est-ce que la gauche parviendra à conserver 2 à 3 régions ou est-ce qu'elle sera rayée de la carte électorale de France? Ça, c'est plus difficile à dire. Il y a des régions, par exemple, sur la façade atlantique, où la gauche, par la personnalité de ses élus, par exemple Jean-Yves Le Drian en Bretagne, espère bien conserver quand même quelques régions. Voilà, donc je dirais sur le reflux de la gauche, il est vraisemblable, et on le voit bien dans les sondages qui ont été publiés. Maintenant, il y a une chose qu'aujourd'hui on ne peut pas dire, c'est ce qui se passera dans le match entre les Républicains et le Front National. Je vous rappelle, première manche, les européennes, le Front National est devant. Deuxième manche, les départementales, cette fois-ci, les Républicains, après l'arrivée de Nicolas Sarkozy, repassent légèrement devant le Front National. Je parle en suffrage exprimé au premier tour. Et là, c'est un enjeu très important, et c'est un enjeu très important, notamment en Provence-Alpes-Côte d'Azur. On verra si la stratégie de Nicolas Sarkozy vis-à-vis du Front National est payante, et pour ça, on aura un indicateur très clair. Est-ce que Christian Estrosi sera en tête au premier tour ou pas? Ce sera un élément à suivre très important pour la suite du débat national.
Comment voyez-vous l'évolution de la candidature et du début de campagne de Marion Maréchal Le Pen, justement en PACA?
On voit dans les sondages, Marion Maréchal Le Pen est testée pour l'instant très haut, elle est même testée première dans un sondage réalisé par un de nos confrères. Pour l'instant, il n'y a pas d'impact chez les sympathisants du Front National de la division familiale, et Marion Maréchal Le Pen, même si elle a pris position, plutôt du côté de sa tante, n'est pas rentrée dans ce débat de manière polémique, elle a tout fait pour l'éviter, elle a pris position émission deux ou trois fois sur le sujet, mais elle n'est pas rentrée dans la polémique. La clé de ce scrutin, où il y aura triangulaire, mais la vraie différence, c'est que les triangulaires en PACA, on les connaît depuis très longtemps. Là, la France entière sera vraisemblablement une triangulaire. Il y aura sans doute aussi de la retrait d'un des camps, mais en tout cas les trois grandes formations politiques, puisqu'on est maintenant dans la tripartition d'espace politique, dans ces grandes régions, peuvent être présentes au second tour. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la victoire au second tour, a priori, ne semble pouvoir se jouer qu'entre les Républicains et le Front National. Vous l'avez dit, la gauche détient la région, mais elle ne semble pas en mesure aujourd'hui de refaire son retard par rapport au sondage mesuré. Et donc, quelle sera l'attitude de l'électorat de gauche? C'est là la clé du succès. Est-ce que l'électorat de gauche considérera que il vaut mieux revoter à gauche, même si c'est perdu d'avance? Est-ce qu'il considérera que la personnalité de Christian Estrosi, son marquage très à droite, fait qu'il vaut mieux rester à la maison? Ou au contraire, est-ce qu'il considérera que entre Christian Estrosi et Marion Maréchal Le Pen, il faut faire barrage à Marion Maréchal Le Pen? Je pense notamment à d'anciens électeurs communistes qui peuvent aller se mobiliser dans une sorte de front républicain pour faire barrage au Front National. Voilà, ça c'est la vraie inconnue. Pour l'instant, on n'a pas d'éléments, mais c'est là la clé de la victoire au second tour entre Christian Estrosi et Marion Maréchal Le Pen. Quelle sera l'attitude de la gauche ?